nous nous retrouvons pour une série
consacrée. Nous attachons à quatre faits marquants de votre vie.
Nous passons une demi-heure ensemble pour...
Focus braque aujourd'hui son projecteur.
Focus. Une émission de la rédaction de Canal Académie.
La mort n'est pas une chose si sérieuse. La douleur, oui. André Malraux, L'Espoir, 1937. Cette douleur, c'est celle de la guerre d'Espagne, des amis disparus de l'escadrille Espagna, montée par André Malraux lui-même. Dans notre extrait, Jean-Marie Drault accompagne Malraux en Espagne, mais cette fois-ci pour une promenade artistique. La mort n'est pas une chose si sérieuse. La douleur, oui. André Malraux, L'Espoir, 1937. Cette douleur, c'est celle de la guerre d'Espagne, des amis disparus de l'escadrille Espagna, montée par André Malraux lui-même. Dans notre extrait, Jean-Marie Drault accompagne Malraux en Espagne, mais cette fois-ci pour une promenade artistique. André Malraux se lance sur les traces de Francisco Goya. Mais là aussi, en compagnie du grand peintre espagnol, Malraux sent la douleur d'un homme qui devint brutalement sourd à 46 ans. Alors nous voilà plongés dans un univers peuplé de sorcières, de créatures titanesques, difformes, ténébreuses. Comme Bruegel ou Jérôme Bosch, Goya peint des monstres. Mais les monstres de Goya sont différents. Malraux en était convaincu. Ils sortaient des propres cauchemars du peintre espagnol. De ses dessins monochromes jusqu'à sa série de peintures noires, sarcastiques et allégoriques, André Malraux fait le tour de l'œuvre de Goya. Visitez cet univers onirique grâce aux commentaires de Jean-Marie Drault et d'André Malraux. Cette retransmission vous est proposée par Claude Carrez et Radio Chrétienne Francophone de Lyon, un partenaire de Canal Académie.
Après le cinquantenaire du ministère de la Culture, le mystère Malraux à travers sa voix, son sens du dialogue et ses engagements, les apprentissages du regard avec son film « Espoir » et l'introduction au journal de voyage de Jean-Marie Drault, des réflexions et promenades imaginaires à Florence et Venise, puis en Hollande avec Rembrandt, aujourd'hui, nous sommes en Espagne avec Goya. Nous nous inspirons pour ces émissions de deux coffrets DVD chez Dorian Film, Les Arts du Monde Entier, journal de voyage de Jean-Marie Drault, ainsi que de l'exposition du musée du Montparnasse tout l'été et même au-delà, Les Arts d'Haïti, la communauté de Saint-Soleil, le dernier voyage de Malraux quelques mois avant sa mort. Il faut bien sûr ajouter les DVD Palette chez Montparnasse, Palette, la fameuse émission d'Alain Jaubert, ou Le Mystère Malraux de René-Jean Bouillet, également aux éditions Montparnasse, ainsi que tous les livres de Malraux sur l'art. Alors, on n'en manque pas, hein. L'Intemporel, Les Voies du Silence, Le Musée Imaginaire, La Métamorphose des Dieux. Mais aujourd'hui, je vous le rappelle, Espagne avec Goya.
Une jeune femme est debout en plein air. Le poing gauche sur la hanche, l'air dubitatif, elle lit un billet qu'elle vient de déplier. Elle est vêtue d'une ample robe noire à manches longues, à manchettes blanches et d'un corsage de satin blanc. Une mantille claire lui couvre la tête. Elle l'a croisée sur son menton et rabattue de chaque côté pour bien dégager le buste. Une servante, un peu en arrière, déploie une ombrelle ocre jaune. Elle aussi est vêtue de noir. Un bichon blanc dressé sur ses pattes arrière tente d'attirer l'attention de sa maîtresse en aboyant. La scène se passe sur une promenade qui longe un lavoir ou un cours d'eau. Des lavandières battent le linge en discutant. L'horizon est fermé par du linge qui sèche sur des perches, des cordes ou des arbres. À l'arrière-plan, une montagne. Le ciel est bleu, avec des reflets roses. La lumière blanche, très verticale, indique le milieu du jour. Une vieille femme est assise sur une chaise. Elle est vêtue d'une robe de soie claire, recouverte de mousseline transparente, pincée sous la poitrine selon la mode de l'Empire et ornée d'incrustations bleues aux épaules et à l'encolure. Dans sa chevelure d'un blond roux décoloré, elle porte une flèche de diamant. Elle arbore aussi de grosses boucles d'oreilles. Et dans ses doigts noueux, ornés de 4 bagues, elle tient un petit miroir circulaire dans lequel elle vient de se mirer. Elle lève les yeux vers un autre miroir rectangulaire que dresse devant elle une servante vêtue de noir. Aussi maigre que sa maîtresse, la servante est brune. Elle a des manches courtes bordées de dentelles noires. Elle porte 4 rangs de perles au poignet droit. Au dos du miroir, une inscription « Ketal », formule courante qui signifie « Comment ça va ?» Mais plutôt ici, « Quelle impression je te donne ?» Derrière les deux femmes, un homme aux cheveux blancs, aux grandes ailes blanches déployées, tient à deux mains un balai rustique. La scène se passe à l'intérieur, avec pour seul décor un pan de mur, des dossiers de chaises et l'amorce d'une banquette. Une lumière qui vient du haut illumine le mur et le centre du groupe. Le bas du tableau et la partie droite sont plongés dans une ombre dense. Le premier tableau a porté divers titres. Femme de Madrid en costume de Majas ou jeune femme lisant une lettre. Le second tableau a été intitulé Vieille femme, puis Le temps. Plus tard, les deux tableaux sont devenus Les jeunes et Les vieilles. Ils ont la même hauteur, 1,81 m. Seule, leur largeur diffère un peu. 1,22 m pour les jeunes, 1,25 m pour les vieilles. Les vieilles portent en bas, à droite, en blanc sur le fond noir, une inscription. Une croix suivie du chiffre 23.
Ce que nous venons d'entendre est un extrait dans la série Palette du DVD Goya, la lettre, la flèche et le balai. Deux tableaux de même dimension et toujours restés ensemble, sont-ils pour autant des pendants ? L'ensemble forme une sorte de fable sur la destinée, celle de l'Espagne ravagée par les guerres napoléoniennes, celle du peintre vieilli et désabusé, mais qui puise un regain d'énergie dans un nouvel amour. Ce qui stupéfie Malraux chez Goya, c'est d'abord la lenteur avec laquelle l'artiste espagnol devient réellement Goya. Au début, c'est un peintre de cour, talentueux, mais pas plus. Et puis, un beau jour, un accident se produit. La surdité qui le coupe du monde. Et c'est alors l'irruption des diables, des sorcières et de l'irrationnel. C'est ce monde qui semble abandonné de Dieu qui va fasciner Goya. Le plus grand montreur de fantastique depuis le Moyen-Âge, dit Malraux, qui ajoute « Goya affirmait n'avoir eu que 3 mètres, la nature, Velázquez et Rembrandt. Il découvrit son génie le jour où il osa cesser de plaire. Nul génie, dit-il encore, ne semble plus spontané que le sien. Il invente à la fois ses rêves et ses réalités, son style. C'est jusqu'à cette brisure de la coulée du pinceau à quoi aujourd'hui sa peinture se reconnaît au premier coup d'œil. Et qui donc, avant Goya, avait frôlé avec une pareille certitude les monstres aveugles des profondeurs archaïques enfouis depuis des millénaires sous notre mémoire ? On en arrive, Jean-Marie Drault, à Promenades imaginaires en Espagne avec Goya, toujours un 52 minutes, je le rappelle à chaque fois. Malraux analyse l'aventure tragique de ce génie visionnaire qui invente ses rêves, sa réalité, son style. Tout d'abord, Goya dessine à l'italienne des cartons de tapisserie. Élu en 1780 à l'Académie, il entreprend une brillante carrière officielle et brusquement, en 1792, il est frappé de surdité.
Et comme Beethoven.
C'est Malraux qui dit, lorsque son génie apparaît, il ose cesser de plaire. Il lui fallut attendre 40 ans avant de devenir Goya.
Ouais, c'est typiquement du Malraux parfait, c'est-à-dire dans la concision.
Dans la force du propos.
La force du propos.
Alors vous allez, Prado, l'Escurial, évidemment à Madrid, Séville. Et ce Goya, qui, vous nous le disiez il y a quelques jours, était supprimé dans un livre pour laisser la place aux Haïtiens.
Le texte sur Goya, oui.
Ce qui ne veut pas dire que Goya n'était pas important pour lui.
Non, bien sûr.
Surtout pour le sens du tragique.
D'autant plus qu'il est revenu plusieurs fois sur Goya, parce qu'il commence avec son premier texte, sont les dessins et les gravures de Goya, puis ensuite il écrit le Saturne, et puis il revient encore une autre fois. Et vraiment, c'est probablement avec Rembrandt, ce sont les deux peintres qui ont accompagné Malraux tout au long de sa vie. Enfin. Et l'un, je dirais, parce qu'il conduit, comme il le dit en une formule magnifique, parce que Rembrandt nous conduit au bord de ces domaines mystérieux qui relèvent de l'âme. C'est d'ailleurs extraordinaire d'entendre un agnostique employer ce vocabulaire. Et bien entendu, chez Goya, ce qui le passionne, c'est cette capacité de capter tout ce qui sort du cauchemar et du rêve, tout en ayant en même temps un regard extrêmement précis sur l'histoire. Et là, Malraux était extrêmement marqué par les gravures aussi, et notamment par l'analyse qu'il fait du fameux tableau Dos de Maios, où on voit les soldats de Napoléon qui fusillent des résistants, disons, espagnols, et où Malraux cite curieusement une phrase que lui aurait dite Picasso en disant que la fameuse lampe, si vous vous souvenez, devant les gars qu'on va fusiller, il y a lampe qui est posée
au sol
devant eux. Et Picasso, avec qui il parlait de ce tableau qui avait énormément fasciné aussi le jeune Picasso allant visiter le Prado, le grand musée de Madrid. Et il disait, bien entendu, cette lampe posée par terre, c'est la mort. Toujours l'obsession de la mort.
Souvenons-nous de la guerre civile et du film Espoir, évoqué lors de notre troisième émission du 17 juillet. Eh oui, l'Espagne. L'Espagne, pour André Malraux, l'évocation de son expérience espagnole, l'espoir est aussi l'épopée de la guerre civile. C'est une œuvre fraternelle où passe un souffle tolstoïen. Au-dessus d'eux, écrit-il, en arrière, la lune qu'il ne voyait pas, éclairait l'aluminium des ailes. Leclerc reposa sa thermos. Aucun geste humain n'était plus à la mesure des choses. Bien loin de ce cadran de guerre seul éclairé jusqu'à des lieux, l'euphorie qui suit tout combat se perdait dans une sérénité géologique, dans l'accord de la lune et de ce métal pâle qui luisait comme les pierres brillent pour des millénaires sur les astres morts. Alors, son livre paru, Malraux ne tourne pas la page de l'Espagne et veut maintenant réaliser un film, le tournage de Sierra de Teruel, qui n'est pas une adaptation du roman, mais seulement de quelques-uns de ses chapitres. Ce tournage commença en juillet 1938 à Barcelone. Il devait se poursuivre en d'autres lieux de Catalogne, enfin à Villefranche-de-Rouergue, où quelques années plus tard, Malraux, prisonnier de la Wehrmacht, sera logé pour une nuit mémorable. Le film fut projeté une première fois en juillet 1939, mais ne vit vraiment le jour qu'en juin 1945 sous le titre Espoir, et l'accueil qu'on lui réserva fut dans l'ensemble enthousiaste, Aragon, Gide, Claude Mauriac et d'autres firent l'éloge d'un film imparfait mais authentique. Il reçut, à la fin de l'année, le prix Louis de Luc.
Les soldats erraient dans Brihuega étrangement désœuvrés, les mains vides. La grande rue aux maisons roses et jaunes, aux dures églises et aux grands couvents était si pleine de décombres, tant de maisons éventrées y avaient vidé leurs meubles, elle était à tel point liée à la guerre que, lorsque la guerre s'arrêtait, elle devenait irréelle et absurde, comme les temples et les cimetières des autres races, comme ces soldats sans fusil qui la parcouraient avec des airs de chômeurs. D'autres rues, au contraire, semblaient intactes. Garcia avait raconté à Manuel qu'à Jaipur, aux Indes, toutes les façades sont peintes en trompe-l'œil et que chaque maison debout porte devant elle son décor rose comme un masque. Dans nombre de rues, Brihuega n'était pas une ville debout, mais une ville de mort, derrière toutes ces façades de sieste et de vacances, ses fenêtres à demi ouvertes sous le ciel désolé. Manuel n'entendait que le bruit des fontaines. Le dégel avait commencé. L'eau coulait sous les chevaliers de pierre ou dans de simples auges, puis se dispersait dans tous les ruisseaux sur ces pavés pointus de la vieille Espagne, où elle dégringolait avec le bruit des petits torrents de montagne entre les portraits jetés à la rue, les fragments de meubles, les casseroles et les décombres. Aucun animal n'était resté. Mais dans cette solitude emplie de bruit d'eau, les miliciens qui çà et là passaient en silence d'une rue à l'autre glissaient comme des chats. Et à mesure que Manuel s'approchait du centre, un autre bruit se mêlait à celui de l'eau, cristallin comme lui, accordé à lui comme un accompagnement. Des notes de piano. Dans une maison toute proche, dont la façade s'était effondrée dans la rue, toutes les pièces à ciel ouvert, un milicien jouait avec un doigt une romance. Manuel écouta avec soin. Au-dessus du bruit de l'eau, il entendait trois pianos. Chacun était frappé d'un seul doigt. Pas question d'international, chaque doigt jouait une romance, lentement, comme s'il eût joué seulement pour la tristesse infinie des pentes semées de camions démolis qui montaient de Brihuega vers le ciel blafard. Manuel avait dit à Gartner qu'il était séparé de la musique. Et il s'apercevait que ce qu'il souhaitait le plus en cet instant où il était seul dans cette rue d'une ville conquise, c'était en entendre. Mais il n'avait pas envie de jouer, et il voulait rester seul. Il y avait deux phonos dans la salle à manger de sa brigade. Il n'avait pas conservé les disques emportés au début de la guerre, mais il y en avait beaucoup dans le coffre du grand phono. Gartner était allemand. Il trouva des symphonies de Beethoven et les adieux. Il n'aimait qu'à demi Beethoven, mais peu importait. Il emporta dans sa chambre le petit phono et le mit en mouvement. Comme la musique supprimait en lui la volonté, elle donnait toute sa force au passé. Il se souvint du geste dont il avait tendu son revolver à Alba. Peut-être, comme le disait Jiménez, avait-il trouvé sa vie. Il était né à la guerre, né à la responsabilité de la mort. Comme le somnambule qui soudain s'éveille au bord du toit, ses notes descendantes et graves lui jetaient dans l'esprit la conscience de son terrible équilibre, de l'équilibre d'où on ne tombe que dans le sang. Il se souvint d'un mendiant aveugle qu'il avait rencontré à Madrid la nuit de Carabanchel. Manuel était avec le chef de la sûreté dans l'auto de celui-ci. Les phares avaient éclairé soudain les mains que l'aveugle étendait devant lui, grandi par leur projection jusqu'à l'immensité à cause de l'inclinaison de la grande via, bosselée par les pavés, brisée par les trottoirs, écrasée par les rares autos de la guerre qui circulaient encore, longues comme les mains du destin. Kilomètre 95. Kilomètre 95, crièrent des voix éparses par la ville, toutes avec le même timbre. Il sentait la vie autour de lui foisonnante de présages, comme si, derrière ces nuages bas que le canon n'ébranlait plus, l'eussent attendu en silence quelques destins aveugles. Le chien-loup écoutait, allongé comme ceux des bas-reliefs. Un jour, il y aurait la paix. Emmanuel deviendrait un autre homme, inconnu de lui-même, comme le combattant d'aujourd'hui avait été un inconnu de celui qui avait acheté une petite bagnole pour faire du ski dans la Sierra. Et sans doute en était-il ainsi de chacun de ces hommes qui passaient dans la rue, qui tapaient d'un doigt sur les pianos à ciel ouvert leurs opiniâtres romances, qui avaient combattu hier sous les lourds capuchons pointus. Autrefois, Manuel se connaissait en réfléchissant sur lui-même. Aujourd'hui, quand un hasard l'arrachait à l'action pour lui jeter son passé à la face. Et comme lui et comme chacun de ces hommes, l'Espagne exsangue prenait enfin conscience d'elle-même, semblable à celui qui soudain s'interroge à l'heure de mourir. On ne découvre qu'une fois la guerre, mais on découvre plusieurs fois la vie. Ces mouvements musicaux qui se succédaient, roulaient dans son passé, parlaient comme eût pu parler cette ville qui jadis avait arrêté les morts, et ce ciel, et ces chants éternels. Manuel entendait pour la première fois la voix de ce qui est plus grave que le sang des hommes, plus inquiétant que leur présence sur la terre, la possibilité infinie de leur destin. Et il sentait en lui cette présence mêlée au bruit des ruisseaux et au pas des prisonniers, permanente et profonde comme le battement de son cœur.
Ya sabes mi paradero, si me quieres escribir, ya sabes mi paradero, lucho en el frente de Huesca, primera línea de fuego, lucho en el frente de Huesca, primera línea de fuego, aunque me tiren el puente y...
Plus tard, à la Salpêtrière, pendant son hospitalisation de 1972, parmi les souvenirs qui l'assiègent, l'Espagne est encore présente dans l'esprit de Malraux. L'hôpital militaire de Madrid, la prédication du moine des Hourdes, les blessés de la Sierra de Teruel, la bruine sur Valence et les gosses sans abri qui dorment sous de grands animaux de carton. Pour ceux qui, parmi vous, n'ont pas entendu la troisième émission du 17 juillet, où nous entendions l'intervention de Malraux à la fin d'une projection du film Espoir, écoutons-le à nouveau.
Ainsi s'achève donc le chant funèbre de la République espagnole. Puissions-nous, gaullistes, être fidèles à cette fidélité de la misère. Et pourtant... Ces funérailles ne furent pas tout à fait une défaite. Je les ai retrouvées deux fois, dont je voudrais vous parler d'abord. La première fois, prisonnier en commando, je me trouvais chez une paysanne qui vit arriver chez elle un officier nazi avec deux soldats. Et l'officier nazi dit en français, elle venait de lui offrir du café, « J'en voudrais aussi pour mes camarades. » Et redit la phrase en allemand. « Or, cet officier était le prince de Metternich. Et je me suis dit que ces hommes-ci n'étaient peut-être pas morts tout à fait en vain, puisque l'arrière-petit-fils de l'ennemi de Napoléon, même chez les nazis, lorsqu'il parlait à de simples soldats, était obligé de dire « mes camarades ». La seconde est d'une autre nature. Le hasard m'a fait arriver l'un des premiers à Nuremberg. La ville était à peu près pulvérisée, sauf toutes ces charpentes de bois que les Allemands avaient mises là pour refaire la ville ancienne et que les bombes n'avaient pas soufflé. et sur l'ancienne grande porte des empereurs d'Allemagne. Cette porte était elle-même une sorte de monument qui était devenu le musée de biologie. Des squelettes soufflés regardaient par la fenêtre cette grande ville squelette où ne montaient plus que quelques dernières fumées semblables aux dernières fumées du Troisième Reich. J'arrivais au fameux stade qui avait été le symbole même de la puissance hitlérienne. Les grands morceaux de l'aigle étaient par terre, et vous savez, au milieu de l'immense colonnade dont les deux avancées soutenaient les feux, il y avait un escalier qui descendait assez profond dans la terre pour mener au bureau où Hitler, avant de parler, avait l'habitude de se recueillir. Je descendis cet escalier et en bas, dans l'ombre, je commençais par entendre un certain chahut de jazz. Et dans le bureau d'Hitler, je trouvais une quinzaine d'agents de liaison nègres au milieu des boîtes de sardines et dans une vaste rigolade. Puis l'obscurité revint. Et alors, je n'entendis plus rien simplement parce qu'il s'était tu, et je sentais au-dessus de moi et autour de moi cet énorme stade où l'on avait vu si souvent les feux hitlériens, et autour cette immense Allemagne enfin vaincue sur le lieu qui avait été le symbole de toutes ses victoires. Et alors, croyez bien, vous tous qui m'écoutez, que j'ai senti dans cette ombre hantée quelque chose qui était un fantôme, enfin souriant et consolé, le fantôme de la République espagnole. La dernière image du film que vous venez de voir manque, comme beaucoup d'autres. Lorsque nos soldats arrivent en bas, je voulais faire reprendre les blessés et les cercueils par les soldats. Les paysans qui les avaient suivis passaient à la troupe leurs morts et leurs vivants, et tournant dans les camps, ils repartaient, on ne savait vers où. Et la dernière image était celle du casque de guerre, suggérant par là qu'il repartait tout de même encore vers une forme d'espoir. Vers quoi? Peut-être vers ce Nuremberg dont j'ai parlé tout à l'heure. Car après tout, qui dans cette affaire furent nos premiers ennemis? Pas les pilotes de Franco, puisqu'à l'époque il n'y en avait pas. Nous n'avions pas encore les pilotes russes qui sont arrivés le jour de la bataille du Manzanares. Par conséquent, lorsque les troupes de Franco étaient devant Madrid, ce qui était en face de nous, c'était bien les pilotes allemands et les pilotes italiens de Mussolini. Et c'est pour cela qu'après tout, cette grande marche de funérailles que vous venez de voir, évidemment, elle est encore une marche de funérailles en Espagne, mais après tout, elle s'étend à travers l'Europe, et aujourd'hui même, elle finit à Berlin.
Si nous revenons un instant sur Rembrandt, en le citant, lui qui, selon Malraux, avait les rayons du soir qui s'adressaient à l'éternité. De l'ombre à laquelle Rembrandt donne la profondeur du trépas, écrit Malraux, sourd une voix plus profonde que les récits d'Israël, la voix solennelle du crépuscule d'été, la voix préhistorique de la nuit, celle de l'immémorial. Ces paysages peints à l'atelier ne représentent pas ce qu'il a vu. Ils expriment le mystère dont la tombée du soir sur les forêts nous donne la révélation furtive. Fin de citation. Et c'est Jean Mambrino dans la revue Étude qui affirme alors à juste titre « C'est bien la poésie qui a le dernier mot ». Et quand on parle de Rembrandt dans une émission sur Goya, il faut évidemment parler d'une filiation Rembrandt-Goya. Goya a trouvé son maître Rembrandt, Le seul génie de l'Occident qui ait, dit toujours Malraux, avant lui, dressé un univers imaginaire contre la forme que l'Italie avait imposée aux rêves des hommes. Il y a l'obsession de la monochromie. On dit de Goya qu'il a su annexer l'horreur, persuadé que l'homme peut être arraché à lui-même par d'autres moyens que ceux de la beauté. Je voudrais citer aussi Godard qui, dans son film Passion, pense qu'on peut imaginer un dialogue entre l'ombre tragique du 3 mai de Goya et l'ombre de Rembrandt. Et ce dialogue a eu lieu dans ce film Passion autour du thème de l'oppression. Et maintenant, entrons dans le film de Jean-Marie Drault qui nous parle de Goya et qui nous plonge dans cette noirceur de certains tableaux de Goya, une sorte de négatif photographique qui suggère son épreuve, une sorte de verre noir à travers quoi se devinent les astres.
Nous sommes très exactement au cœur de l'Espagne. Le 19 mars, il sollicite une prorogation par laquelle on apprend que le peintre, parti de Madrid pour Cadiz, tombe malade à Séville. Il restera complètement sourd jusqu'à la fin de sa vie, et donc pendant 35 ans.
Et on pourrait dire aussi que la Bastide de Goya, c'est peut-être sa surdité.
Ça semble, ça doit tout de même être vrai, mais ça semble moins évident maintenant parce que comme on a tendance à admettre que les petites toiles qui sont déjà le grand Goya, qui sont à San Fernando...
L'enterrement de la Sardine.
La Sardine.
L'enterrement de la Sardine, nous dit André Malraux, représente le mercredi des cendres. Les funérailles du carnaval, la mort du temps. Malraux ajoute, c'est l'Espagne? Mais quel autre Espagnol l'a peinte avant Goya? Et qui donc, avant Goya, avait frôlé avec une pareille certitude les monstres aveugles des profondeurs archaïques, les symboles enfouis depuis des millénaires sous notre mémoire? Dorénavant, vers 1793-1794, Goya passe indifféremment de la gravure à la toile peinte. Ses obsessions s'expriment tout aussi bien en noir et blanc qu'en couleur. Goya devient le vrai Goya.
Bon, les deux petits sont maintenant généralement attribués à 93. Alors, dans ces conditions-là, dès 93, il aurait eu, par accident...
Le processus
déjà,
intérieur est commencé.
Déjà, ça y était. Et ça se défend, parce que vous avez des caprices de cette époque-là qui sont déjà le vrai Goya et aucun autre.
1799, Goya publie les caprices.
Thank you. À propos de la série des gravures, les caprices, Malraux note. Qui donc tiendrait Goya pour un illustrateur? Goya dessine comme en rêve. Il affirme avoir, dans les visions d'une nuit, dessiné ses rêves. Mais la nuit n'est pas si rationnelle. Que Goya précise ses cauchemars, et nous voyons qu'il en était venu à rêver ses dessins. Ce génie obsédé l'est de ses propres créations. Et ses rêves trop précis ressemblent plus à ses dessins que ses dessins à ses rêves.
D'abord, la façon dont il sert de la main miroir. Ah, les fonds des caprices sont très souvent des fonds noirs à la manière noire. C'est un emploi du noir que personne ne faisait à l'époque et qui, à mon avis, est pour l'élément satanique l'équivalent du fond d'or pour Byzance. Parce que c'est pas vrai que c'est la nuit.
C'est comme ça parce que c'est comme ça.
Et souvent, comme le fond d'or, c'est pas parce que le paradis est doré. C'est parce que le fond d'or est une irréalité. Et le fond noir de Goya joue le même rôle.
Malraux note encore, Goya est infirme. Plus grave, il croit, au dire de ses amis, l'être par sa faute. Goya est entré dans l'irrémédiable.
Sur Goya dans le triangle noir, vous dites que finalement son seul intérêt se porte sur le visage. Vous insistiez sur le fait qu'il n'y a pour ainsi dire jamais de décor. Il y a quelque chose de centré, enfin on dirait nous en langage cinématographique, il y a une sorte d'insistance sur le gros plan. Enfin on saisit ses gravures en gros plan, même si ce n'est pas exactement dessiné de cette façon-là.
Et puis, alors avec les gravures, depuis les caprices jusqu'aux disparates, il y a le moment où les fonds existent comme fonds. C'est-à-dire, ce ne sont pas des lointains et ce ne sont pas non plus des réalités éloignées. C'est quelque chose, je reviens à mon fond d'or, c'est quelque chose de totalement arbitraire et dont il a décidé que ce serait comme ça. Et je pense qu'il est le premier, parce que je ne vois guère dans les graveurs quelqu'un qui accepterait une technique représentative et en particulier des volumes. Pour les personnages, et qui ne considérerait pas ces fonds comme des lointains. Certainement pas le cas de Piranèse, pour qui les lointains sont tout à fait des lointains, échafauder les lointains pour les prisons, c'est une de ses plus grandes réussites.
On pourrait d'ailleurs, sur un plan cinématographique, se servir de Piranèse pour créer le décor autour des figures de Goya, c'est-à-dire que l'un nous fournirait le décor et l'autre nous donnerait les visages, enfin dans un film.
Vous auriez du mal quand même.
Oui, parce que c'est pas le même monde finalement. Vous dites de lui aussi, le plus grand montreur de fantastique depuis le Moyen-Âge.
Et un fantastique individuel, ce qui n'est pas le cas du Moyen-Âge.
« Le sacré n'est pas aisément accessible. Il est caché, selon Malraux, par l'acharnement de l'humanité à coordonner le monde à sa mesure. Pour le maître espagnol, Goya, les relais seront les instants où les rapports établis par les hommes sont bouleversés, où cette coordination sécurisante n'a plus cours, les jeux, le carnaval, la folie, les tortures et la nuit. Goya donnera de ces situations des créations inoubliables, Malraux aussi. La nature goyesque de ces héros est frappante, de même que les situations dans lesquelles il les fait agir. Autant dire que si l'homme rencontre le sacré dans sa confrontation avec le monde, il le rencontre tout autant en lui-même. L'homme mis en scène par Malraux décline inlassablement les variations inépuisables sur le thème de la condition humaine, véritable obsession de cette œuvre.
Dieu a disparu, mais le diable est resté. Puis Malraux revient à l'histoire. Depuis longtemps, l'Espagne se sentait complice de la haute diablerie. Philippe II, peuple des créatures de Jérôme Bosch, les perspectives de catacombes dont il protège sa solitude à l'Escorial. Et qui donc, sinon Jérôme Bosch et Bruegel, avaient, avant Goya, tiré des grandes profondeurs d'aussi viables monstres? Toujours feuilletant les caprices, cette série de gravures, Malraux note. Pourquoi ces sorcières? Goya n'y croit pas. Elles font partie de ces monstres à la fois inquiétants et comiques qu'il tentait d'apprivoiser et expriment sans doute l'élément démoniaque qu'il a toujours attaché à la femme. Dieu a disparu. Mais le diable est resté. Malgré les procès de sorcellerie, il était presque absent des grandes œuvres du XVIIe. La raison permet à Satan de reparaître dans le rêve, comme plus tard la logique totalitaire des camps d'extermination le fera reparaître sur le monde. Pourtant, Nerval et Baudelaire, à leur tour, feront-ils veiller par tant de revenants et de sorcières la naissance de la poésie moderne? Tout art des profondeurs demande l'abandon de l'artiste à certains appels sollicités mais peu contrôlés. Goya se crut-il un satirique? Mais de quoi? Des politiciens de son temps, des mondains de la coquetterie, des médecins, des prêtres, de l'orgueil? De tout ce qu'il tenait pour imposture, la satire de Goya n'a qu'un objet, l'homme.
Vous avez l'obsession de la prison, qui arrive en même temps, vous l'avez eu dans Piranès, et le cachot de Goya, mais le point commun avec ça est extrêmement fort, et d'ailleurs, à bien des égards, la peinture de Goya est une peinture de prisonnier. Seulement, alors, je crois qu'il faudrait dire qu'il y a la différence des moyens, parce que... Avec le surréalisme, étant entendu qu'on n'a pas le droit de dire ça, ça est un très mauvais écrivain, c'est un fait considérable. Mais à côté de Diderot, c'est un écrivain dérisoire, tandis que à côté de n'importe qui, Goya n'est pas un peintre dérisoire.
Goya, c'est quelque chose comme Sade qui aurait eu les moyens de Victor Hugo.
En somme, Goya, c'est quelque chose comme Sade qui aurait eu les moyens de Victor Hugo.
1808, guerre contre Napoléon,
soulèvement du peuple espagnol. André Malraux parle encore de Goya, et plus particulièrement du fameux tableau « Les fusillades du 3 mai ». Et il en parle avec Picasso. André Malraux note au passage, en travaillant à la grande toile de Guernica, Picasso avait étudié les fusillades du 3 mai. Et Picasso avait dit à Malraux, je cite, « Le ciel noir, il n'est pas un ciel, il est du noir. L'éclairage, il y en a deux. Un, qu'on ne comprend pas. Il éclaire tout comme un clair de lune, la sierra, le clocher, les fusilleurs, qui devraient être à contre-jour. Mais il éclaire bien plus que la lune. Et il n'a pas sa couleur. Et puis, il y a la lanterne par terre, énorme, au centre. Elle, la lanterne, qu'est-ce qu'elle éclaire? Le type au bras dressé, le martyr. Vous regarderez bien, elle n'éclaire que lui. La lanterne, ajoute Picasso, c'est la mort. Pourquoi? On ne sait pas. Goya non plus. Mais Goya, lui, il sait que ça doit être comme ça. J'ai toujours eu l'impression d'un tableau envoûté. Envoûté par quel surnaturel? Surtout pendant la guerre d'Espagne, j'y pensais. Parce que l'homme au bras dressé symbolisait nos copains. Je ne pensais pas à l'éclairage. Je pensais à ce grand geste des bras, en V. Goya publie la tauromachie. Thank you.
Dans les voies du silence, Malraux écrit « L'humanisme, ce n'est pas dire ce que j'ai fait, aucun animal ne l'aurait fait. C'est dire, nous avons refusé ce que voulait en nous la bête et nous voulons retrouver l'homme partout où nous avons trouvé ce qui l'écrase. » Sans doute pour un croyant, ce long dialogue des métamorphoses et des résurrections s'unit-il en une voie divine, car l'homme ne devient homme que dans la poursuite de sa part la plus haute. Mais il est beau que l'animal qui sait qu'il doit mourir arrache à l'ironie des nébuleuses le chant des constellations et qu'il le lance au hasard des siècles auxquels il imposera des paroles inconnues. Dans le soir où dessine encore Rembrandt, toutes les ombres illustres et celles des dessinateurs des cavernes suivent du regard la main hésitante qui prépare leur nouvelle survie ou leur nouveau sommeil. Et cette main, dont les millénaires accompagnent le tremblement dans le crépuscule, tremble d'une des formes secrètes les plus hautes de la force et de l'honneur d'être homme.
(1820-1822) Les peintures noires de la Quinta del Sordo, la maison du sourd.
Quant à Goya, les peintures noires, c'était sa salle à manger. Par conséquent, il n'y avait que les copains, puisque les gens qui le visitaient, visitaient l'atelier. Et c'est dans l'atelier qu'il y avait les deux bajas, la femme nue et la femme habillée, qui basculaient, la femme habillée basculant, et on voyait la femme nue. Bon, dans l'atelier, mais les peintures noires étaient dans la salle à manger. Alors, c'était l'art suprême pour complices. Alors, avec les peintres, oui, avec les autres, c'est pas possible. Mais ça, pour nous, c'est fini. Un peintre fait ce qu'il veut.
La peinture de Goya crie l'angoisse de l'homme abandonné de Dieu.
Je vous rappelle les deux coffrets DVD chez Dorian Film dont nous nous inspirons, Les Arts du Monde Entier, journal de voyage de Jean-Marie Drault avec André Malraux, l'exposition du musée du Montparnasse tout l'été, Les Arts d'Haïti, la communauté de Saint-Soleil, le dernier voyage de Malraux quelques mois avant sa mort, les DVD Palette chez Montparnasse, Alain Jaubert et le mystère Malraux, toujours chez Montparnasse, les ouvrages de Malraux et la semaine prochaine, si vous le voulez bien, nous nous retrouvons avec Malraux au voyage, voyage autour de la tête d'obsidienne, l'art moderne de Manet à Picasso.
Ce qui est curieux d'ailleurs, c'est de voir que chez l'artiste, enfin chez le peintre, il y a une espèce de maturation très lente qui fait penser à celle de certains vins, alors qu'il est extrêmement rare, par exemple, de voir une œuvre, à part peut-être Victor Hugo.
Le tombeau de Théophile Gautier, c'est d'ailleurs avant, c'est 72 ans. Bon, le sonnet à Jules Gautier,
ce fameux sonnet où il laisse des blancs.
Bose. Bon, ce sont des sommets de la poésie occidentale. Mais en même temps, il faisait des tas de tocards. Bon, tandis que Goya, il ne faisait pas de tocards en marge des peintures noires. Ben, le peintre, de ce point de vue, est bénéficiaire, mais je crois qu'il y a deux choses que nous devons mettre en jeu. L'une, c'est tout de même ses manuels. Et je ne veux pas dire qu'il dessinait mieux pour imiter la dame au grand chapeau. Il faisait ce qu'il voulait. Il y avait des tas de choses, je pense, qu'avant il aurait bien voulu faire, Goya. Parce que dans les personnages sous les arches, on sent ce qu'il cherche. Et il ne l'a obtenu qu'à cet âge. Et puis, il y a autre chose. Vous avez parlé des vins. Très bonne idée. La peinture mûrit bien plus vite que la littérature.
venez d'écouter des extraits du film de Jean-Marie Drault, journal de voyage avec André Malraux, à la recherche des arts du monde entier. Une émission proposée par Claude Carrez et Radio Chrétienne Francophone de Lyon, un partenaire de Canal Académie. Le documentaliste a suivi André Malraux dans un tour du monde des arts. Continuez ce voyage artistique et rendez-vous en Hollande sur les traces de Rembrandt. Malraux vous parlera du maître du clair-obscur. Retrouvez également les 13 films de Jean-Marie Drault en compagnie d'André Malraux sur le site www.dorian-film.com.